Chrétien d'Orient, Sébastien de Courtois.
Bonjour, ce matin dans Chrétien d'Orient, nous allons mettre à l'honneur le travail d'une jeune chercheuse, Perrine Pilette, qui travaille sur le monde copte et plus précisément sur une chronique ancienne écrite en langue arabe, Histoire des patriarches d'Alexandrie. Un texte vivant qui continue à être alimenté par des moines et des prélats égyptiens et dont l'origine se perd dans l'histoire lointaine puisque nous sommes pour la première version connue au XIe siècle. Vous êtes actuellement en post-doc, attaché à la Sorbonne, Sorbonne Université, à l'UMR Orient et Méditerranée. Et avant cela, vous avez fait une thèse en langue et littérature orientale à l'Université de Louvain en Belgique, puis travaillé à l'Université de New York avant de venir à Paris dans le cadre de vos recherches actuelles où vous poursuivez l'étude de ce texte sous un angle plus historique. Bonjour Perrine.
Bonjour Sébastien.
Votre zone de confort intellectuellement est celle de l'époque médiévale en contexte musulman. Vous avez appris les langues anciennes, l'arabe, le copte, puis la codicologie et la philologie. Alors ma première question, Perrine, serait de vous demander comment vous vous êtes intéressée à l'Égypte puis au monde copte.
Bien, c'est très simple et peut-être un petit peu déjà entendu comme histoire. J'ai commencé mes études, j'ai toujours été fascinée enfant par l'Égypte. Et donc, le jour venu, quand je me suis inscrite à l'université, j'ai commencé mes études en égyptologie. Mais rapidement, j'ai effectué des voyages d'études en Égypte et j'ai été subjuguée par le monde arabe, de manière générale, dont j'ai décidé d'apprendre la langue. Apprenant l'arabe, ayant étudié l'égyptien ancien, j'ai ensuite facilement appris le copte. Et pour un travail de mémoire et ensuite pour une thèse, je me suis naturellement dirigée vers des traductions, des textes traduit du copte vers l'arabe pour mettre en évidence les deux langues que j'avais apprises.
Vous êtes passé de l'Égypte ancienne, donc de l'histoire des pharaons, au copte, qui est ce maillon, me semble-t-il, entre l'Égypte ancienne et le monde contemporain, peut-être d'une certaine manière. Et il y a l'échelon arabe, bien entendu, entre-temps, qui devient, avec l'histoire, majoritaire. Pour vous, c'est une continuité, c'est une même histoire?
Oui, c'est une même histoire, c'est un même territoire, c'est la vallée du Nil qui est habitée par un peuple qui change de religion, le temps passant, la culture évoluant. Mais oui, c'est une même histoire et le fait d'avoir étudié des périodes plus anciennes et puis également l'antiquité gréco-romaine pour arriver ensuite à l'antiquité tardive et l'époque musulmane m'a toujours semblé un enrichissement en fait. Ça permet de voir ça dans un contexte plus large, oui, et d'appréhender ça d'une manière plus large, d'une manière globale.
Alors en quoi les Coptes sont ce maillon justement entre l'Égypte ancienne et l'histoire médiévale? Par la langue peut-être?
Par la langue, oui, bien sûr, la langue copte, comme certains d'entre vous le savent peut-être déjà, la langue copte est le dernier stade de la langue égyptienne, le dernier stade qui va être utilisé jusqu'à l'époque médiévale. Il est difficile de mettre une date sur la fin de l'utilisation du copte. Il y a plusieurs possibilités. Et les spécialistes situent la fin de cette utilisation en fonction des milieux locaux ou sociaux entre le 10e, 11e et le 13e siècle.
Alors est-ce que le copte d'aujourd'hui est-il toujours parlé par les communautés chrétiennes d'Égypte ou est-ce que c'est une langue purement liturgique?
C'est une langue qui est aujourd'hui purement liturgique. Elle est pratiquée à l'église par les prêtres, mais la plupart des gens ne comprennent plus cette langue. Il y a quelques érudits qui la pratiquent, dans des milieux ecclésiastiques notamment, ou dans certains milieux sociaux qui la pratiquent, mais toujours dans un cadre religieux, elle n'est plus comprise.
Alors nous sommes ensemble ce matin pour évoquer un texte qui s'appelle « L'histoire des patriarches d'Alexandrie ». De quoi s'agit-il exactement, en quelques mots?
En quelques mots, il s'agit de l'histoire officielle de l'Église d'Alexandrie, rien de moins. Histoire officielle, car elle est le produit de la volonté d'un patriarche à l'époque fatimide, le patriarche Cyril II, qui l'a commandé à un notable, un érudit. Et ce notable, qui s'appelait Mahoub ibn Mansour ibn Mufarij, Mahoub s'est rendu à travers de nombreux monastères d'Égypte, du Delta principalement, mais aussi de Moyenne-Égypte. Il a collecté des sources historiographiques, des sources historiques, à nature historique, en copte, qui se situaient dans ces monastères, et il les a adaptées, le terme adapté est très important, adaptées et traduites en arabe. Et nous sommes là à la fin du XIe siècle. Et à partir de là, ce texte va être complété, amendé, réécrit un nombre incalculable, mais un grand nombre de fois, jusqu'à des époques très récentes.
Est-ce que c'est le premier texte issu de l'Église copte que nous trouvons en langue arabe, ou est-ce qu'il y a eu peut-être des textes qui ont précédé? Et si oui, il y a véritablement une volonté politique de s'inscrire dans un contexte culturel qui est dominé par l'arabe à cette époque-là?
Oui, tout à fait. C'est le premier texte copte que nous trouvons, donc produit par des coptes, que nous trouvons en arabe en Égypte. Ce texte s'inscrit dans un contexte particulier. Nous sommes en Égypte fatimide. L'Égypte fatimide, il faut le rappeler, donc les fatimides sont une dynastie qui est chiite. Donc c'est une dynastie qui est confessionnellement minoritaire en Égypte à l'époque. Et les chrétiens qui sont au XIe siècle, qui ne sont pas encore devenus une minorité, c'est très important de garder ça à l'esprit. Les chrétiens, ils sont en voie de minorisation, mais ils constituent probablement encore plus de la moitié de la population à cette époque. Les chrétiens sont encore en position de force. Et le patriarcat, à travers la création de ce texte, cherche probablement à s'affirmer, à se montrer auprès du pouvoir fatimide. On peut mettre ça en parallèle avec également le déménagement du siège patriarcal qui avait, à quelques rares exceptions près, qui avait toujours été situé à Alexandrie. Et là, à l'époque fatimide, le patriarcat déménage au Caire et va s'installer dans l'église suspendue, l'église Al-Muallaqa.
Donc on a rapproché du pouvoir, peut-être.
Donc on a un rapprochement du pouvoir géographique, mais aussi plus symbolique, avec la création de ce texte qui a une vocation de manifeste, on peut le dire, de manifeste politique de la part des Coptes qui, à travers cet objet particulier, revendique en quelque sorte une position sociale visible et acceptable dans l'espace plus largement dirigé par les musulmans.
Alors parlez-nous du texte lui-même, du support de ces textes. On parle de manuscrits. Comment vous les trouvez? Comment vous les cherchez? Dans des bibliothèques en Égypte?
Alors oui, c'est ça. Ce texte, en particulier l'histoire des patriarches d'Alexandrie, est conservé dans un très grand nombre de manuscrits. J'en dénombre plus d'une cinquantaine. Une partie de ces manuscrits sont conservés dans les bibliothèques européennes, suite à des transferts de manuscrits qui ont été effectués il y a quelques siècles en Europe. Les manuscrits ont été ramenés à Paris, notamment à Hambourg, à Londres, etc. Mais une grande partie de ces manuscrits se trouve encore aujourd'hui, et c'est heureux, en Égypte, dans les collections du patriarcat et dans les collections des monastères, de certains monastères, notamment le monastère de Saint-Antoine sur la mer Rouge, ou encore le monastère de Saint-Macaire au Wadi Natroun.
Et comment vous procédez alors? Vous demandez des autorisations de consultation auprès des prélats, et est-ce qu'ils les donnent facilement?
Ça n'est pas facile, mais c'est enrichissant. Alors, ça se passe souvent très bien, mais il faut prendre le temps de séjourner en Égypte, de prendre contact avec des gens qui sont de près ou de loin connectés à l'Église, d'établir une relation de confiance, voire d'amitié, et de... oui, qui est fondée aussi sur un échange. On demande des copies, mais on donne des choses en retour, des livres qu'on peut ramener pour alimenter des bibliothèques égyptiennes, par exemple. Mais ça se passe bien. Mais voilà, obtenir les signatures des personnes les plus hautes dans l'Église n'est pas toujours évident. Et voilà, en tant que jeune femme européenne, la tâche n'est pas facilitée, mais jusqu'à présent, j'ai eu énormément de chance et je suis très reconnaissante à toutes les personnes qui m'ont aidée en Égypte à obtenir ces, toutes ces copies.
Alors revenons un petit peu sur le déroulé de ce texte, donc qui a été écrit, rappelons-le, enfin compilé au XIe siècle, basé sur des versions coptes peut-être plus anciennes ou des bouts d'histoire hein, éparpillés, comme vous le disiez tout à l'heure, dans plusieurs monastères entre la Haute et la Basse Égypte. Que nous raconte cette histoire sur les origines du christianisme ou les origines, en tout cas, de cette église d'Alexandrie ?
Bien, cette histoire, on va dire de manière organisationnelle, tout d'abord, elle est divisée en vies de patriarches. On a les vies de patriarches depuis la fondation de cette église qui, selon la tradition, est fondée par l'évangéliste Marc. Évangéliste Marc qui devient, dans ce texte, le premier patriarche de cette église, même s'il y a bien sûr un certain anachronisme, mais l'église d'Alexandrie tient à se réclamer de Saint-Marc, et à partir de Saint-Marc, tous les patriarches sont numérotés jusqu'à des époques récentes, et on trouve, toutes ces vies nous offrent une vision très alexandrine de l'histoire de l'Église. Il y a bien sûr des transformations, des adaptations qui sont faites pour cadrer avec l'idéologie alexandrine par rapport à certains personnages, notamment Origène, etc.
Pourquoi Alexandrie ? Est-ce qu'on sait pourquoi le patriarcat s'est installé ou pourquoi Marc est allé à Alexandrie ? C'était une des grandes métropoles de Méditerranée à l'époque ?
Oui, Alexandrie était un des grands carrefours culturels de la Méditerranée. Et oui, au moment de la fondation de ses premières églises, elle était aussi importante que Rome ou Antioche.
Et sur ces premiers patriarches, alors ceux qui viennent tout de suite dans la succession après Marc, qui avons-nous ? Est-ce qu'il y a des exemples particuliers de personnages un peu plus hauts en couleur, où on connaît la figure du patriarche Cyril, je crois, à l'époque des débats christologiques au 5e siècle.
Oui, c'est ça, on a Cyril d'Alexandrie qui est le 24e patriarche dans la succession. On a Athanase d'Alexandrie qui est par ailleurs reconnu comme un père de l'Église universelle, mais qui est aussi patriarche d'Alexandrie dans ce texte et qui a une très longue vie dont on nous parle, dans laquelle on nous parle de ses œuvres, de ses miracles.
Comment est venue cette idée d'écrire sur les patriarches ? C'est quand même extraordinaire, je ne crois pas qu'il y ait d'autres exemples dans des églises constituées comme ça, par une langue, par une culture commune, de vouloir écrire leur propre histoire par le biais de ces chefs d'église.
En fait, ils écrivent très peu, paradoxalement, sur les patriarches. Cette histoire des patriarches sert de cadre à une histoire plus large de l'Égypte, voire du Moyen-Orient. On a bien sûr des informations relatives à ces personnages, mais qui sont bien sûr passées à travers le filtre de l'histoire ecclésiastique. On se concentre beaucoup sur les miracles, qui sont bien sûr, dans ces textes, considérés comme des événements historiques dont il faut garder le souvenir. On parle de leurs œuvres, mais il y a une place énorme, vraiment, accordée aux événements politiques, aux révoltes, à toutes sortes de choses qui peuvent se passer dans la société égyptienne à travers le temps. Donc les patriarches, je force un peu le trait en disant ça, mais les patriarches ne sont presque qu'un prétexte, vraiment, à écrire l'histoire de l'Égypte, des Coptes, mais pas seulement, à travers un filtre qui favorise ce groupe confessionnel qui produit ce texte. On les montre toujours sous un bon jour et dans une position qui les sert, dans une position par rapport aux dirigeants arabo-musulmans, une position qui les sert en fonction des époques où ce texte est amendé, réécrit.
Alors nous sommes ce matin sur France Culture en compagnie de Perrine Pilette pour évoquer un texte important, l'histoire des patriarches d'Alexandrie. On a dit tout à l'heure en introduction que le texte était toujours amendé, qu'il y avait une continuité jusqu'à notre époque. Comment ça se passe ? Qui prend l'initiative ? On a mentionné une notice biographique sur le pape Chénouda III, je crois. Comment ça se passe ? Est-ce que c'est, comment dirais-je, une personne au patriarcat qui est responsable de continuer cette histoire qui remonte au haut Moyen-Âge, ou est-ce que c'est l'initiative de certains moines ou de certains érudits dans l'église copte aujourd'hui ?
Eh bien aujourd'hui, je ne sais pas. Je constate que ces biographies sont écrites, elles circulent dans des petits ouvrages que l'on vend dans les églises, mais qui n'ont pas d'auteur connu. Elles circulent également sur Internet, mais elles n'ont pas d'odeur identifiée. Ce qui est assez intéressant en soi, parce que dans les différentes phases, alors bien sûr, on a des compilateurs identifiés pour certaines vies, certaines tranches de vie, mais le texte est aussi le fruit d'une tradition qu'on l'on dit ouverte, c'est-à-dire qu'elle est perpétuellement réécrite. On reprend toute la matière, on va dire depuis le début du texte, on la remâche, on la transforme, on l'amende, on raccourcit, on allonge le texte. Et les personnes qui ont fait ces réécritures, ces transformations du texte sont inconnues. On a des copistes anonymes, des copistes qui se désignent toujours dans les colophons des manuscrits comme des misérables pêcheurs, des gens qui sont indignes d'être reconnus pour leur travail, et donc on n'a pas de nom. Et de manière assez intéressante, on voit que ces biographies, actuellement, mais ne portent pas de nom non plus. Alors est-ce que c'est le fruit du hasard ou une tradition plus large, on va dire, d'humilité de la part de ces compilateurs? Je ne sais pas. Mais...
Et qu'est-ce que ça nous indique sur l'état d'esprit de l'Église copte, au fond? Cette volonté de décrire sa propre histoire elle-même, d'une certaine manière, tout en décrivant, comme vous l'avez dit fort justement, le contexte des époques. Donc c'est une source pour les historiens qui est très importante. Ils sont très attachés à l'histoire de leur Église.
Oui, ils sont très attachés à l'histoire de leur Église. Ce texte est presque considéré comme un texte sacré, d'où les difficultés parfois d'avoir accès à certains des manuscrits plus anciens qui pourraient... on va dire comporter des versions différentes de celles qui circuleraient aujourd'hui. On a une Église copte qui, à travers ce texte, veut se positionner par rapport au pouvoir qui n'est pas chrétien, en fait, qui est musulman depuis la conquête de l'Égypte au 7e siècle. On a une Église qui va décrire les gouvernants sous un jour qui favorise l'Église. Alors, pour citer un exemple, parce que tout ça est très très abstrait, pour citer un exemple, on a par exemple le récit de la conquête arabe de l'Égypte, qui est en fait, de manière extrêmement intéressante, décrite comme une libération du joug byzantin. Les Arabes arrivent en Égypte comme des libérateurs. Que ce soit vrai ou faux, ne nous intéresse pas ici, mais en tant qu'historien, ce qui est intéressant, c'est de voir le contexte de production de ce récit et le sens qu'a ce récit au moment où il est créé. Alors, ce récit est traduit en arabe au XIe siècle. Au XIe siècle, comme je l'ai dit, nous sommes à l'époque fatimide, époque fatimide où les chrétiens cherchent à s'affirmer face à un pouvoir minoritaire, un pouvoir minoritaire qui a été dur quelques décennies auparavant, notamment avec les fameuses persécutions d'Al-Hakim, et un pouvoir qui doit lire ce texte, puisque c'est un texte qui n'est pas caché, c'est un texte qui circule dans un grand nombre de manuscrits. Et le récit de la conquête arabe nous dit « Ah, regardez, le conquérant de l'Égypte, Amr ibn al-As, était un libérateur du joug byzantin. Il a protégé nos ancêtres quand il est arrivé, il les a favorisés. Et vous, gouvernants d'aujourd'hui, époque fatimide, vous devez vous conformer à cette histoire, à ce paradigme idéal entre le conquérant et le patriarche Benjamin, en l'occurrence qui avait été envoyé en exil par les Byzantins et remis sur son trône patriarcal par les conquérants. Donc on a là une construction, un récit qui est sous un jour extrêmement favorable pour les conquérants, mais qui sert de manifeste. Regardez comment doit se comporter un gouvernant idéal.
Une sorte de mode d'emploi peut-être pour... on est quelques années, quelques décennies après des persécutions qui ont été très douloureuses. Je crois que la plupart des églises du Caire avaient été détruites à l'époque. Oui. Donc on est vraiment dans une recontextualisation politique. On essaye de montrer un modèle d'une certaine manière, un modèle de tolérance peut-être.
Un modèle de tolérance, je ne sais pas, un modèle de protection en tout cas, un modèle d'une position... Une position protégée et favorable dans la société, une position de protection. Et alors j'ai un autre exemple, peut-être un autre récit qui peut éclairer ce que je dis et qui là se situe à l'époque fatimide sous la vie d'un patriarche d'origine syrienne, par ailleurs un patriarche qui s'appelait Afraham dans le texte. Et ce récit est le récit du déplacement de la montagne du Muqattam. Il y a toute une longue description qui nous dit comment le patriarche, aidé d'un saint, le saint Sam'an el-Kharraz, Siméon le cordonnier, a déplacé la montagne du Caire suite à une attaque du calife qui voulait que le patriarche prouve la véracité de la foi chrétienne, puisque la foi déplace des montagnes. Il se base sur le verset biblique pour mettre au défi le patriarche. Le patriarche réussit à déplacer cette montagne et, ce faisant... Dans certaines versions du texte, tardives, il libère de l'espace en fait. Il libère de l'espace pour la création de la ville. parce que ce récit se situe sous le calife El-Mouaïz, qui est par ailleurs le fondateur de la ville du Caire fatimide. Donc on voit les chrétiens qui, par ce récit symbolique, participent à la fondation même de la ville fatimide par excellence. Ils poussent la montagne, ils repoussent la montagne par la puissance de leur foi, libérant ainsi l'espace pour créer la fameuse ville du Caire fatimide, la Al-Qahira en arabe, la victorieuse, donc la ville qui symbolise vraiment la prise de l'Égypte par les Fatimides. Donc à nouveau, on a un récit de copte qui revendique une position, une participation même à ce pouvoir fatimide. Parce qu'on a aussi de nombreux lettrés coptes intellectuels qui participent de facto au fonctionnement de l'État.
Une dernière question peut-être. Est-ce que ce texte a été repris par des historiens musulmans? Est-ce qu'il a servi de base, de réflexion peut-être à une histoire de l'Égypte pré-islamique?
Oui, c'est très intéressant également parce que là, ça nous montre des échanges littéraires, on va dire interconfessionnels. Ce texte, bon d'abord, ce texte de l'histoire des patriarches est considéré comme, on peut dire, la matrice d'un genre littéraire plus large qui est l'historiographie dite copto-arabe, donc écrite en arabe par les coptes. Et cette historiographie copto-arabe a donné naissance, sur la base de cette matière primordiale, à plusieurs textes. Parmi ceux-ci, on a l'histoire d'un certain Girgis El-Makin qui sera cité après très largement par des compilateurs, des historiens musulmans fameux comme Ibn Khaldoun notamment ou El-Makrizi. Et donc on a, par le filtre, même l'entonnoir d'El-Makin, une percolation de toute cette matière historiographique vers l'historiographie musulmane qui cite ce texte pour des affaires pré-islamiques auxquelles ils n'auraient pas accès par rapport à travers leurs propres sources ou pour des questions spécifiquement chrétiennes liées à l'Église.
Est-ce que c'est un texte qui a une qualité littéraire singulière pour vous?
C'est un texte qui est très touchant, qui est très variable aussi d'une biographie à l'autre. Le style, comme on a de nombreuses mains qui ont participé à la création de ce texte, on a une partie du texte, vous l'avez compris, qui est traduite, une autre qui est compilée directement en arabe. On a des structures syntaxiques qui rappellent le copte, du vocabulaire qui rappelle le copte, et puis dans des biographies beaucoup plus récentes, quelque chose qui va se diriger vers un arabe qui serait plus, on va dire, plus classique, plus moderne, influencé par des dialectes aussi de différentes époques. Donc on a, oui, une richesse de langue qui fait aussi la beauté de ce texte.
C'était ce matin avec Perrine Pilette, l'histoire des patriarches coptes d'Alexandrie. Merci Perrine.
Merci Sébastien pour l'invitation.
Je remercie Dany Journeau, Olivier Dupré et Claire Poinsignon pour la réalisation et la technique de cette émission. Émission que vous pouvez retrouver en balado-diffusion sur le site internet de France Culture. Et nous retrouvons ce dimanche matin le service protestant. Merci.